concerne donc le thème de la régulation de la violence. Bon, aujourd'hui, on peut pas nier que islam et violence, il y a un rapport. Le problème, c'est que il faut sortir des fantasmes. Alors, du côté musulman, on a une idéologie violente actuellement qui s'inscrit dans un courant qui est un courant moderne, alors que les musulmans s'imaginent que c'est un courant ancien, et ce courant, c'est le salafisme. Le salafisme, il a été inventé au moment où, à la fin du 19e siècle, ça allait très mal pour l'Empire ottoman, qui commençait à être dépecé par les États européens, puisque la Grèce a été sous pouvoir ottoman. Jusqu'au milieu du 19e siècle, il ne faut pas oublier. Donc, l'Empire ottoman part en morceaux. Et là, je dois dire que depuis le début de l'islam au 7e siècle, les musulmans ont toujours été au pouvoir. Ils ont eu toujours, quelque part, un pouvoir important et qui ne s'est jamais interrompu. Depuis la réussite première de Mahomet ou Mohammed, enfin, moi je dis l'un ou l'autre, Mohammed c'est en arabe et Mahomet c'est en français, et Mohammed c'est faux, puisque en arabe il n'y a pas de O, il n'y a pas de E. Hein, il n'y a que A, I, U. Donc quand vous entendez un O ou un E, c'est de la prononciation, mais ce n'est pas de l'arabe. Donc depuis l'époque de Mohammed, il est censé mourir en 632 et il est censé avoir mis sur pied ce que les musulmans d'aujourd'hui s'imaginent avoir été un État musulman. Alors, c'est déjà, il y a un problème parce que un État, ça veut dire quoi? Dans quel contexte? Il faut revenir non pas à la religion mais à la politique. En Arabie, puisque l'islam, ça vous vous en doutez, naît en Arabie. L'Arabie, c'est grand, en Arabie occidentale, entre la Mecque et Médine. Et quand on fait de l'histoire, il faut faire de la géographie. Il faut regarder où ça se trouve. La Mecque est à peu près à 1 000 km du nord de l'Arabie et 1 000 km du sud. Il ne faut pas raisonner en transport d'aujourd'hui, il faut raisonner au pas des chameaux. Donc, ça fait un mois de marche au bas mot, si tout va bien, dans chaque sens. Donc, c'est très loin de tout. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas si certains d'entre vous savent que j'ai lancé une page Facebook depuis 2 ans, qui est très intéressante parce qu'elle s'adresse à un public indifférencié. Et les réactions des intervenants, ce sont les musulmans francophones d'une façon générale, soit en France, soit au Maghreb, soit en Afrique noire. Et alors, ils me disent, mais vous dites que la Mecque, c'est loin de tout. Et puis, Mahomet aurait eu des relations avec l'Éthiopie, le royaume d'Aksoum. Actuellement, c'est l'Érythrée. Alors, je leur dis, oui, mais entre les deux, il y a la mer Rouge. Ah, ils me disent, mais c'est simple. On va à 70 km de la Mecque sur la côte, du côté de Jeddah, et puis là, on loue un bateau. Bon, vous voyez la manière dont les gens raisonnent. Alors, je dis oui, mais ils ne connaissent pas Henri de Montfred, évidemment. Hein, la mer Rouge, ça ne se navigue pas comme ça. Et puis, pour naviguer en mer Rouge, eh ben, il faut être marin. Donc, il y a à peu près 800 km de mer extrêmement difficile, avec des vents, etc., des bateaux qui ne remontent pas au vent. Donc, non, on ne loue pas un bateau pour aller au royaume d'Aksoum quand on est à la Mecque. Ce n'est pas possible. Enfin, vous voyez. Donc, il faut visionner le terrain sur lequel on travaille de façon extrêmement précise, c'est-à-dire les conditions matérielles, les conditions économiques, le type de société, les moyens d'existence. Sinon, on ne comprend rien. Et on fait ce que font beaucoup de mes collègues aujourd'hui, certains de mes anciens étudiants, on se fabrique des terrains imaginaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments bibliques dans le Coran, Ben, pour comprendre le Coran, je parle de la Bible. Mais cela dit, on a complètement effacé le terrain, on n'a pas de terrain quand on fait ça. Donc, on a ce début de l'islam dans un milieu très très particulier qu'il faut parvenir à visualiser pour comprendre quelque chose. Alors sur ce terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un État musulman au 7e siècle? Et là, il faut faire de la politique. Quel était le type de politique qui s'appliquait sur ce terrain en Arabie occidentale? Eh bien, forcément, les populations d'Arabie, c'était des populations tribales. Donc, le modèle politique ne peut être qu'un modèle tribal. On ne va pas inventer un État qui sortirait de nulle part. On ne va pas inventer ce qu'on appelle une communauté musulmane. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire politiquement, une communauté musulmane. Donc, qu'est-ce qui s'est produit quand Mohammed a réussi en politique? Je ne dirais pas qu'il a réussi religieusement, je dirais qu'il a réussi en politique. Eh bien, il a mis sur pied une confédération tribale. C'est tout. Il n'a pas mis un empire, il n'a pas mis une communauté religieuse, hein, ce n'était pas les moines. Il a mis sur pied un assemblage de tribus telles que les règles de son époque le permettaient. Hein. On n'invente pas un modèle politique qui n'existe pas, surtout sur un terrain comme celui de l'Arabie, qui est soumis du point de vue économique à des contraintes de, je dirais, de survie, parce qu'on est dans un milieu aride, et le problème, c'est de savoir si l'année prochaine, on aura à manger. Et pourquoi on se demande ça? Parce qu'on se demande s'il va pleuvoir. Et s'il ne pleut pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la famine. Alors, en ce qui concerne la Mecque, il faut se défier des représentations postérieures de la Mecque. Les représentations postérieures, c'est les représentations musulmanes qui interviennent une fois qu'on est sorti de la première période, qu'on est sorti d'Arabie, qu'on a constitué un empire. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on imagine avoir eu un lieu fondateur magnifique. C'est-à-dire qu'on amplifie le rôle de la Mecque d'une façon complètement extravagante. Et par contre, si on revient à la géographie, à l'économie et au milieu, la Mecque, c'est quoi au départ? Je dirais que c'est une anomalie en Arabie parce que c'est un point d'eau sans oasis. La Mecque, j'ai un de mes collègues qui avait écrit, et je lui étais tombé dessus à bras raccourcis, que la Mecque est une oasis. Je dis, mais ce n'est pas possible. La Mecque n'est pas une oasis. La Mecque existe parce qu'on a trouvé un point d'eau dans un lieu improbable, c'est-à-dire dans un bas-fond. Vous regardez, vous avez dû voir des photographies, la Kaaba, elle est située dans ce que dans le Coran on appelle le ventre de la Mecque. Le ventre de la Mecque, c'est quoi? C'est le lieu de collection des eaux, c'est-à-dire que vous avez des vallées d'oued qui descendent vers un bas-fond. Et d'ailleurs, ce lieu est inondable. Et cette inondation qui arrive, pas tous les ans, parce que c'est assez rare, est considérée comme une bénédiction, parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de pluie. Et on a trouvé quoi? Au fond de cette dépression, on a trouvé un puits pérenne. Parce que le problème des puits en Arabie, c'est que vous êtes sur une piste, vous savez que normalement il y a un puits, vous arrivez, vous avez fait une étape, et puis le puits il est à sec. Donc, ça s'appelle en arabe le bi'r zanoun, hein, le puits, on ne sait jamais s'il y a de l'eau dedans ou pas. Et ça, c'est très 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 embêtant, parce qu'on peut en mourir, évidemment. Bon. Donc, là, on a un point d'eau pérenne, dans un bas-fond, mais il n'y a rien à manger. C'est-à-dire que pour se nourrir, les Mécois, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils étaient obligés de faire alliance avec les Bédouins locaux, les petits Bédouins de la côte ouest de l'Arabie. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la topographie de l'Arabie. Là, c'est pareil, il faut regarder les photos. On s'imagine que l'Arabie, c'est un désert de sable. je ne sais pas, est-ce que c'est l'idée que vous avez ou un autre Sahara. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie, c'est un morceau d'Afrique qui s'est cassé et que la mer Rouge, c'est une mer d'effondrement. Et donc, y a une activité volcanique intense des deux côtés de la mer Rouge. Du côté africain, on connaît les volcans du côté africain, on ne les connaît pas du côté arabe. Et toute la façade ouest de la mer Rouge, c'est des montagnes qui sont entre 2000 et 3600 mètres. Et si vous allez dans la ville de Taif, là où il y a eu les accords de Taif, qui ont mis fin à la guerre du Liban, là, il y a une erreur dans Wikipédia. Wikipédia dit que Taif est à 1600 mètres. Non, Taif est à 1800 mètres. C'est tout juste si on ne fait pas du ski. Non, mais il n'y a pas de neige. À 70 km, vous êtes déjà à 1800 mètres. Et si vous allez plus bas, alors là, vous avez ce qu'on appelle le massif de Asir. C'est des montagnes qui sont sans interruption jusqu'au Yémen. Le point culminant d'Arabie, c'est à côté de Sanaa, au Yémen, la capitale du Yémen, à 3600 mètres. Et vous avez les villes d'Arabie Saoudite, les villes de l'Ouest, on dit que c'est la zone verte de l'Arabie Saoudite actuelle. Vous avez des montagnes avec des villes à 2300 mètres. À transposer ça dans les Alpes, évidemment, il n'y a pas de neige, il fait plus chaud, mais vous voyez à peu près le terrain. Donc, vous avez une chaîne de montagnes, en fait, chaîne volcanique, tout le long de la face est de la mer Rouge. Et la Mecque est imbriquée dans une espèce de trouée au milieu de ces montagnes. Non seulement vous avez les montagnes, mais vous avez en plus ce qu'on appelle des chaos basaltiques. En arabe, on dit les harra. Le chaos basaltique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de roches volcaniques. C'est des champs de roches volcaniques qui sont souvent en boule ou qui sont coupantes et qui sont totalement intraversables. Par exemple, entre la Mecque et Médine, vous avez un champ de lave qui fait à peu près 250 km de long. Ça vous donne une idée. Et la dernière éruption volcanique au sud de Médine date de 13e siècle, 1256. Et la lave s'est arrêtée à quelques kilomètres de Médine. Donc, c'est la dernière éruption importante. Donc, vous voyez, il faut se donner une idée de ce terrain pour comprendre les choses. Donc, la Mecque est un espèce de trou perdu dans l'Ouest arabique, sans aucune agriculture sur place. Et si vous êtes un Mécois que vous voulez manger, vous devez prendre vos chameaux à l'époque et vous devez monter à 1800 mètres à 70 km. Donc, ça veut dire que ça vous fait aller-retour 8 jours de marche, à peu près. Sinon, vous descendez vers Jeddah, où là, il y a une vallée qui descend des montagnes qui est cultivée. Actuellement, ça s'appelle le Wadi Fatima. Où là, mais c'est également une soixantaine de kilomètres. Donc, les Mécois n'avaient rien à manger sur place. Donc, pour se rendre compte du poids politique de la Mecque, vous imaginez qu'il est à peu près égal à zéro, puisque la Mecque ne peut nourrir qu'une seule tribu. À la Mecque, il y avait une seule tribu qui devait donc s'arranger avec les bédouins du coin, c'était les petits nomades. Parce qu'en Arabie, il y a des nomades, on pourrait dire de grandes tentes, comme on dit au Sahara, ou des nomades qui contrôlent des groupes plus restreints selon leur territoire de parcours. Les nomades de la façade ouest de l'Arabie, c'est des petits nomades qui sont dans les vallées, mais ils ont des chameaux, et le moyen de transport, c'est les chameaux, il n'y a rien d'autre. Donc, les Mécois étaient obligés d'être alliés avec les petites tribus bédouines du coin. Eux, ils étaient sédentaires, ils avaient très très peur de se perdre dans le désert, ils avaient besoin des bédouins d'à côté. Mais ce n'étaient pas les grands bédouins de l'Arabie centrale. En Arabie, il y a deux types de nomades. Il y a les nomades du grand plateau, qu'on appelle le Najd, où se trouve Riyad actuellement, la capitale de l'Arabie saoudite. Là, vous avez des tribus de grands nomades et vous avez de grandes oasis. Et ces grands nomades, ils font facilement 1000 km, ça ne les dérange pas. Il y a des grands déplacements. Je me souviens d'avoir été au mois d'août en Irak, il fait très chaud en Irak au mois d'août, il y a longtemps, avant tous les événements récents, il y a une quarantaine d'années au moins. Et au bord de l'Euphrate, il y avait des centaines de chameaux qui étaient remontés du désert et qui passaient l'été au bord du fleuve et qui remontaient du Nefoud ou du Nejd. Ces grands nomades font des grands déplacements. Les Mekouas, avec leurs petits nomades alliés, ne faisaient certainement pas de grands déplacements. Et quand on nous raconte partout que Mahomet est un grand caravanier qui parcourt toute l'Arabie, eh bien, c'est de la foutaise. Parce que pour aller au nord, il faut qu'il fasse 1000 km, et donc il faut qu'il trouve des bédouins qu'il convoie. Et pour aller au sud, alors le sud est également, le nord du Yémen est également 1000 km. Alors le Yémen, c'est différent de l'Arabie occidentale. Pourquoi ? Là, c'est la climatologie. Parce que le Yémen et toute une partie de ce massif montagneux dont j'ai parlé est touché par la mousson d'été. La mousson d'été qui tourne dans l'océan Indien et qui touche toute la côte sud de l'Arabie. Ça va du Oman au Zophar, je ne sais pas si vous voyez où est le Zophar sur la côte sud, et tout devient vert à ce moment-là. Cette mousson arrive plus ou moins sur les montagnes du Yémen, donc il y a de la sédentarité au Yémen, il y a toujours une structure tribale, mais il y a de la sédentarité, il y a de quoi cultiver la terre dans les hautes montagnes, dans les vallées d'Oued, le long des vallées d'Oued. À la fois la climatologie, l'économie et la politique au Yémen est différente. Il y a eu des royaumes au Yémen, ce qui n'était pas possible dans l'Arabie aride, où c'est le système tribal avec des regroupements par petites tribus, plus ou moins grandes tribus, selon la base économique que l'on trouve. Alors, la première ville, c'est donc la Mecque, au 7e siècle, qui, comme je vous l'ai dit, n'a rien à voir avec l'aura qu'on lui donne par la suite. Dire que la Mecque rayonnait sur toute l'Arabie, là, c'est pareil, c'est totalement impensable du point de vue historique, du point de vue économique. Que les Mekouas étaient des gens honorés en Arabie. D'ailleurs, il y a l'honorabilité et la gloire en Arabie, ça se traduit souvent par la parole. Les hommes de tribu d'Arabie sont des hommes de parole, ce n'est pas des gens qui écrivent, on n'écrivait pas. Donc c'est la mémoire et la parole qui comptent. Et ce qu'on nous dit, ce qui remonte de cette période, c'est la grande poésie bédouine. Et la grande poésie bédouine, où est-ce qu'on la trouvait ? On la trouvait dans les grandes tribus. On ne la trouvait pas en Arabie occidentale. Et les grands poètes bédouins, dont on a gardé des poèmes, se moquaient des gens de l'Arabie occidentale, justement, en tant que petits nomades, en tant que mauvais combattants, en tant que... Bon, la gloire en Arabie se trouvait au sein des grandes tribus et pas sur la côte de l'Arabie occidentale. Donc, raconter que la Mecque avait une aura qui rayonnait sur toute l'Arabie, ça n'existe pas. Alors, ensuite, la deuxième ville qui concerne l'islam, c'est Médine. Alors là, c'est une autre histoire, parce que contrairement à la Mecque, Médine est une très grande oasis, était une très grande oasis. Et on s'en aperçoit tout de suite à cause de la base économique, parce qu'à Médine, il y avait 5 tribus. À la Mecque, il n'y en avait qu'une. À Médine, il y en avait 5. Il y avait 3 tribus juives qui étaient installées depuis longtemps parce que, alors on ne sait pas depuis quand, mais les juifs qui avaient été, ça date de l'époque romaine, et puis ensuite sont arrivés les Byzantins. Les Byzantins n'étaient pas très favorables aux juifs et les ont même pas mal embêtés. Les juifs avaient été mis dehors de Jérusalem par les Romains. Qui avait détruit le temple. Et quand l'Empire romain s'est christianisé, les Juifs ne sont pas revenus à Jérusalem. C'est-à-dire qu'au moment de l'islam, Jérusalem était une ville chrétienne. Ce n'était pas du tout une ville juive. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? ils étaient également organisés en groupes tribaux. Ils s'étaient installés le long de la voie qui descend. Quand vous êtes au sud du Proche-Orient, vous avez ce qu'on appelle l'ancienne route de l'encens. Alors, l'ancienne route de l'encens, là aussi, il faut regarder la géographie, elle se trouve à l'est des montagnes côtières. Parce que le long de la côte, il ne peut pas y avoir de route côtière qui parte du nord de l'Arabie, le long de la mer Rouge, ou alors il peut avoir une route côtière qui est ouverte de façon saisonnière. Et là, je ne sais pas si vous avez lu Laurence d'Arabie, Les Sept Piliers de la Sagesse, il nous raconte qu'il a parcouru tout ça à pied, il nous raconte que lui, il était sur la côte, qu'à la saison des pluies, quand il pleut de temps en temps quand même, de ces montagnes qui sont à 2000 mètres et qui sont à entre 70 et 100 km de la côte, vous avez des ouates gigantesques qui descendent. Et donc, le long de la côte, vous ne pouvez pas passer à certaines saisons. Parce que vous avez des ouettes avec un flot tumultueux qui fait plusieurs kilomètres de large. Et donc, on peut passer le long de la côte à certaines saisons, mais on ne peut pas passer tout le temps. Donc, la route internationale qui n'existait plus au 7e siècle quand l'islam est né, la fameuse route de l'encens, qui date d'avant l'ère chrétienne, mais de plusieurs siècles, on ne sait pas exactement, mais sans doute 2-3 siècles avant l'ère chrétienne, il y avait cette route de l'encens. Alors, l'encens, pourquoi pas? Ben, c'était les résines précieuses dont on avait besoin dans les cultes multiples et variés du Proche-Orient, d'Égypte et de la Méditerranée. Et l'arbre en sang, où est-ce qu'il pousse? Il pousse au sud de l'Arabie, il pousse au Zophar, il pousse au Hadramaut, il pousse un petit peu en Éthiopie aussi, mais concernant l'Arabie, il pousse tout à fait sur la côte sud. Donc ces résines odorantes, on les faisait remonter à partir du nord du Yémen. On remontait du Hadramaut, on arrivait au nord du Yémen, et là, la route de l'encens passait par Najran. Je ne sais pas si vous voyez où est Najran. Actuellement, c'est à l'extrême sud de l'Arabie saoudite, à la frontière du Yémen, mais à l'intérieur, c'est-à-dire du côté est des montagnes, puisque du côté ouest, le massif montagneux est tellement énorme qu'on ne peut pas, il n'y a pas de route qui remonte vers le nord. Donc la route, c'est une route intérieure qui longe les montagnes à l'est, et cette route ne passait pas du tout par la Mecque. Alors moi, comme tous mes maîtres, pendant longtemps, j'ai écrit, même dans mon premier livre encore, que la Mecque était une étape caravanière sur la route de l'encens. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que tout le monde le disait. Et puis un jour, j'ai lu un archéologue italien qui travaillait sur le terrain, qui s'appelait, j'ai oublié son nom, et qui avait remonté les différentes étapes. Et en fait, on s'aperçoit que la Mecque n'a jamais constitué une étape sur la route de l'encens. La Mecque est à l'ouest de la route de l'encens, à 3 nuits de marche. Alors, 3 nuits aller, 3 nuits retour, qu'est-ce que les caravaniers auraient été faire dans une cité où il n'y avait aucun moyen de subsistance, où il y avait simplement de l'eau? Bon. Donc, la Mecque n'a jamais été une étape caravanière sur la route de l'encens, contrairement à ce qu'on écrit encore de temps en temps. Cela dit, Médine, par contre, était située sur la route de l'encens. Alors, Médine, grande oasis avec des espaces agricoles considérables et une circulation qui vient du sud, qui vient du nord et également qui peut aller vers l'est. Mais alors, l'est, c'est encore plus loin parce que ça, c'est la plaine au sud de l'Euphrate. Et là, c'est du point de vue de la Mecque, c'est quasiment à 1500 km. C'est très, très loin. Et donc, qu'il y ait eu des contacts entre la Mecque et la Babylonie et le sud de l'Irak, c'est pareil, c'est totalement invraisemblable. Donc, si je vous dis cela, c'est pour vous dire que face aux musulmans d'aujourd'hui, mais également face aux non-musulmans, c'est-à-dire face à nos enseignants et à leurs manuels, je ne sais pas si ce que je vous raconte là, vous l'avez lu déjà quelque part. Et j'en doute forcément.
Oui.
Vous pourriez parler plus fort.
Vous avez dit qu'il y avait 5 tribunes à Médine.
Il y avait 5 tribus. Oui.
3
juives et 2 tribus arabes.
Deux tribus
arabes païennes au départ. Donc, ce que je vous dis là, malheureusement, ça n'est pas écrit dans les manuels. Bon, un certain nombre de mes collègues le savent, mais dans les manuels d'histoire aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Quand j'étais aux affaires et présidente de jury, j'ai été présidente du jury d'agrégation d'arabe, j'allais souvent au ministère de l'Éducation, il y a longtemps, il y avait les inspecteurs d'histoire qui étaient là. Et on leur disait, avec l'inspecteur général d'arabe, qui m'a beaucoup soutenu à l'époque, avec lequel on travaillait en très bonne intelligence, on disait aux inspecteurs d'histoire, mais ça ne va pas vos manuels, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Hein. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses à revoir dans ce qu'on enseigne. Bon. Alors, non seulement les musulmans se font des illusions sur leur passé, mais nous aussi, je dirais qu'ici, le boulot n'a pas été fait non plus. Alors, quand on est face à la violence qu'on connaît aujourd'hui, avec tous les fantasmes qui circulent dans les têtes, les nôtres, et celles des, je dirais globalement, des musulmans, il y a les djihadistes, mais il y a les non-djihadistes, la grande majorité, les djihadistes, c'est une infime minorité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut leur dire? Donc, ils sont empris dans une idéologie qu'ils ne contrôlent pas. Ils sont empris dans une idéologie qui n'a rien à voir avec ce qu'ils devraient savoir de leur propre histoire. Ils n'ont pas les moyens d'accéder à cette propre histoire parce que l'histoire historique telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui dans la recherche, qui conduit à lire les textes sacrés de manière critique, ça a été fait pour les textes bibliques, même si tous les hommes de la Bible et tous les croyants de la terre n'adhèrent pas à la recherche critique, mais au moins ça existe quelque part. Ça a été fait dans le christianisme également avec certaines difficultés, dont certaines encore récentes. Mais dans le monde musulman, la lecture critique des textes, ça n'existe pas. Bon, donc il y a une sacralisation du passé qui fait obstacle de façon extrêmement efficace à la lecture historique du passé. Et moi, je m'en aperçois dans mes petites vidéos, là, il y a toutes les semaines, on publie des trucs, à voir les réactions. Vraiment, il faudrait faire une étude psychosociologique pour se rendre compte du point où en sont les gens, à partir de leurs réactions. Alors, le problème, on est face à des fantasmes et à une formation extrêmement insuffisante dans nos propres circuits d'enseignement. Si on vient face aux musulmans d'aujourd'hui, ici en France, en leur disant « voici les valeurs de la laïcité », ils vont prendre ça comme une idéologie concurrente et ça ne va leur faire aucun effet. Au contraire, ils vont se replier sur leurs valeurs sacrées, sacralisées. C'est-à-dire qu'une idéologie, j'ose utiliser le terme, une idéologie laïque ne peut pas s'affronter de façon efficace, valeur de la République ou pas, à une idéologie qui se base sur des croyances religieuses. Ce n'est pas possible. Donc, le seul moyen qu'on aurait de déverrouiller les cervelles, d'amener un certain nombre de gens à réfléchir, c'est de leur amener des éléments de compréhension et nous-mêmes, pour avoir une stratégie efficace, notre premier devoir, c'est de comprendre. comprendre avant de faire comprendre. Et nous ne sommes pas au point dans nos universités aujourd'hui. Personnellement, j'ai été l'élève des derniers orientalistes. Le traducteur du Coran, Blacher, a été mon maître. J'ai eu comme maître celui que j'ai... Blacher voulait que je fasse une thèse avec lui. Il voulait me faire travailler sur les phares. Et je lui ai dit, oui, monsieur, il m'a plus vu. Bon, ça, c'était après mon agrégation. Bon, j'ai travaillé avec Claude Cahen, qui était le grand historien médiéviste de la Sorbonne, parce que c'est l'histoire qui m'intéressait. Le problème, c'est que... Ah donc, j'ai été l'élève, oui, je reprends le fil de mon idée. J'ai été l'élève des derniers orientalistes et nos maîtres, alors on était très peu, hein, très peu d'élèves d'arabe, nos maîtres ne faisaient que du médiéval. C'est-à-dire, tout ce qui concernait le monde arabe moderne, ils s'en fichaient complètement. Par contre, on était absolument submergés par les textes anciens. Donc, on a eu une formation d'arabe classique, je dirais inégalée, et qui n'existe plus, parce que dans les universités, il n'y a plus d'islamisants médiévistes, il n'y en a quasiment plus. On ne travaille plus l'arabe classique. Le problème des historiens dans les départements d'histoire, le problème c'est quoi? C'est qu'ils vont reproduire ce qu'on dit un petit peu partout sur l'islam, et ils ne pouvant accéder aux textes sources en arabe classique, en arabe médiéval, ils ne pourront pas rectifier les erreurs historiques qui parcourent tous les manuels actuels. Le problème, c'est qu'on a besoin d'une double compétence qui n'existe quasiment plus, de l'arabe médiéval, de l'arabe classique, au sens le plus dur du terme, c'est-à-dire que quand vous avez des volumes qui sont grands comme ça, hein, vous avez 10 volumes et que vous cherchez des trucs dedans, alors vous allez me dire maintenant il y a Internet, etc., mais il faut pouvoir se débrouiller dans cette littérature médiévale qui est absolument énorme, hein, littérature religieuse ou pas, il faut avoir un niveau de langue extrêmement important et il faut avoir le sens de l'histoire. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des gens, vous avez des biblistes, alors les biblistes, ils connaissent les langues, hein, et les langues anciennes. Mais vous n'avez pas d'arabisants qui sont au niveau des biblistes en ce qui concerne le travail sur les textes anciens. Alors, soit vous avez des gens comme ceux qui ont fabriqué le Coran des historiens, c'est un titre qu'ils m'ont piqué d'ailleurs, le problème c'est qu'ils ne sont pas historiens. Ce sont des gens qui connaissent les textes médiévaux, mais qui pour parler du Coran vous parlent de la Bible. Évidemment, il y a des éléments bibliques dans le Coran, mais tout ce que je vous dis là sur le terrain, vous pouvez chercher longtemps, vous ne le trouverez pas dans cette énorme somme. Je le dis d'autant plus librement que l'éditeur du Coran des historiens, c'est un de mes éditeurs aussi, et il sait très bien ce que je pense de l'ouvrage en question. Je vous donne un exemple. Vous avez une sourate qui est la sourate 106 dans le Coran, qui est probablement un des passages les plus anciens du Coran, parce qu'il n'y a encore aucun biblisme dedans. C'est une très très courte sourate de quelques versets. Et là-dedans, on nous dit « Rendez culte au Seigneur de cette demeure, la demeure c'est la Kaaba, hein, donc le point d'eau, parce qu'il vous a préservé des attaques et de la famine. Parce qu'il a protégé vos voyages caravaniers, parce que la tribu mécoise semble avoir, au début du 7e siècle, semble avoir pu bénéficier d'une éclaircie dans les forces politiques qui existaient en Arabie à l'époque, parce qu'à la fin du 6e siècle, depuis le milieu du 6e siècle, donc avant l'islam, au Yémen, il y a eu une invasion des Aksumites. Les Aksumites, c'étaient les Éthiopiens de la rive africaine. Et il y a eu un royaume qui s'est créé à ce moment-là, qui s'appelait le royaume d'Abraa, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom, Abraha. Donc, c'était un général d'origine éthiopienne qui a contrôlé le Yémen pendant une cinquantaine d'années. Et puis, il a fini par se casser la figure. Alors, il avait des ambitions en Arabie, etc. Il a fini par se casser la figure. Il y a eu une invasion perse au sud de l'Arabie. Et donc, je dirais qu'une petite tribu comme les Mécois pouvait, sans risquer de s'affronter à une force importante, descendre vers le nord du Yémen. Donc, il semble que les Mécois, un petit peu avant l'islam, aient entamé des voyages auxquels la sourate en question fait référence, vers le nord du Yémen. Alors, pour faire, est-ce qu'ils voulaient reprendre un commerce de résine? On ne sait pas. Et à la saison propice, il semble qu'ils aient inauguré une remontée le long de la côte. La sourate nous dit il y a le voyage d'hiver vers le Yémen. C'est moi qui dis vers le Yémen, ça, ce n'est pas dans le texte. Et le voyage, alors, quand on traduit mal, on dit le voyage d'été, mais en été, on ne voyage pas, il fait trop chaud. C'est le voyage du printemps avancé, c'est-à-dire le voyage d'après l'équinoxe de printemps. Parce qu'après l'équinoxe de printemps, vous pouvez remonter le long de la côte de l'Arabie parce que les ouêtes ne dévalent plus. Donc la route est ouverte à partir de l'équinoxe de printemps jusqu'au moment où il fait trop chaud. Donc il semble que les Mécois se sont lancés dans ces petits voyages qui n'ont rien à voir avec les grands parcours caravaniers qu'on leur prête à travers toute l'Arabie. Donc il semble qu'ils aient eu une petite activité à la fin du VIe siècle en profitant du desserrement des grandes forces politiques qui étaient en train de se battre. Au nord, les Byzantins et les Perses se battaient, et au sud, il y avait les Perses et le royaume éthiopien s'était cassé la figure. Donc, il semble qu'il y ait eu une petite fenêtre là où ils aient pu faire des petits trajets. Donc, il y a un mot en arabe qui désigne le fait, parce que quand vous montez une caravane, vous suivez une piste, évidemment, et vous traversez des territoires de tribus. Et donc, pour traverser un territoire de tribu, il faut l'accord de la tribu. Sinon, on vous tombe dessus. Ce n'est pas des frontières, mais si, c'est quasiment des frontières. Il faut avoir conclu des accords sur chaque territoire tribal qu'on traverse. Et donc, il y a un mot qui désigne, c'est le mot « ilaf » en arabe, qui désigne ce type d'accord. Et alors là, je reviens au courant des historiens, je fais un grand détour. Eh bien, il se trouve que le mot « ilaf » désigne en syriaque, peut désigner en syriaque le bateau. Le mot elfo, alors c'est la même racine. Le syriaque et l'arabe, c'est des langues sémitiques. Donc il y a des racines communes comme l'anglais, l'allemand, il y a des mots en commun. Donc il se trouve qu'en syriaque, en araméen aussi d'ailleurs, cette racine, qui est la même qu'en arabe, désigne le bateau. Mais alors pas n'importe quel bateau. Le fait d'avoir un bateau qui est armé, soit pour la guerre, vous savez ce que veut dire l'armement d'un bateau, ça ne veut pas dire qu'on met des canons dessus, ça veut dire qu'on le met en position de pouvoir naviguer en mettant tout ce qu'il faut, un équipage, du ravitaillement, etc. Alors, ça peut être l'armement soit d'un bateau commercial, soit d'un bateau de guerre. Et effectivement, syriaque, ça désigne la galère, donc c'est-à-dire un bateau de guerre. Donc, l'un de ces charmants historiens du Coran des historiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé qu'en syriaque, il y avait un mot qui désignait le bateau.
Tu reviens, Jacqueline, sur la construction de l'islam.
Oui, je vais revenir. Je ne sais pas, il est quelle heure?
Il est presque 8 heures.
Il est presque 8 heures. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a sorti? Eh bien, que les Mécois naviguaient sur mer. Vous voyez, le genre d'idiotie que vous trouvez. Bon, alors, je vais maintenant vous faire une chronologie pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Alors, vous avez le Coran. Le Coran qui au départ est une parole qui est stabilisée, on peut dire, entre le milieu et la fin du 7e siècle. Est-ce que le Coran a été mis par écrit du temps de Mohammed, certainement pas, parce qu'on est dans une société d'oralité dominante où tout ce qui est important se disait à l'oral et se transmettait devant témoin. Vous avez en plus une preuve anthropologique qu'on n'écrivait pas, c'est l'ahurissement qui saisit Mohammed quand il arrive à Médine et qu'il est face aux rabbins juifs qui ont des asfar, les sépharot, hein, les rouleaux de la Torah ou les rouleaux de ce qu'on veut, et qui s'aperçoit que le sacré, la parole divine, selon ce qu'il se représente, est écrite. Et vous avez un verset du Coran de cette période qui dit « Malheur à ceux qui ont écrit de leurs mains le kitab ». Alors, le mot kitab, on traduit aujourd'hui par « livre », mais en fait, c'est l'écrit surnaturel du destin. C'est ça que ça veut dire. Malheur, alors, qui est révélé par Dieu, la règle coranique, c'est quoi? C'est que le Dieu créateur révèle son kitab, c'est-à-dire son écrit à chaque peuple. Donc, révèle son destin à chaque peuple, au peuple qu'il choisit pour lui délivrer ce destin. C'est ça, la vision coranique, c'est ça. Et le Coran, c'est quoi? C'est le fait, une fois que cet écrit surnaturel est délivré par une écoute, eh bien, celui qui reçoit ce message doit le transmettre à son peuple. Et la vision coranique, c'est que Noé a reçu un message qu'il a transmis à son peuple qu'il n'a pas écouté. Abraham a transmis un message à son peuple qu'il n'a pas écouté. Et Moïse considéré comme un prophète, hein, Abraham considéré comme un prophète, chacun a transmis le kitab divin, l'écrit divin, à son peuple, et je dirais sous la forme d'un Coran. Le Coran étant quoi? Étant la transmission fidèle du message entendu. C'est ça que ça veut dire. Donc, on ne doit pas écrire de sa main, parce que écrire de sa main, ça signifierait qu'on falsifie le texte ou qu'on le détourne, et c'est une accusation qui est portée contre les Juifs médinois. Alors, pourquoi une accusation contre les Juifs médinois? Tout simplement parce que Mohammed reçoit son inspiration à la Mecque, mais sa tribu considère que c'est des balivernes et le met dehors au bout d'un certain temps. Bon, Mohammed est chassé de sa tribu. Il va se réfugier à Médine et là, il s'imagine, comme durant la période mécoise, il avait utilisé des récits d'origine biblique. Alors, vous allez me dire d'où ils viennent, les récits d'origine biblique. Les récits d'origine biblique, ils remontent par la voie caravanière du Yémen, parce que le Yémen était judaïcisé depuis le IVe siècle et christianisé depuis la deuxième moitié du Ve. Donc, il y avait un biblisme vivant au Yémen et les histoires bibliques ont pu remonter par la voie caravanière de Najran, qui était une cité chrétienne, jusqu'à la Mecque. Les Éthiopiens étaient christianisés également. Donc, il y avait un fond biblique qui existait au Yémen et qui a circulé, qui est arrivé à la Mecque, qui a été utilisé par Mohammed pour convaincre sa tribu de la surpuissance du Dieu créateur, l'idée de création étant elle-même empruntée au biblisme, parce que les tribus ne croyaient pas au Dieu créateur. C'est une thématique empruntée et qui va être coranisée, c'est-à-dire alors, le Dieu créateur, qu'est-ce qui va devenir dans le Coran? Il va devenir, je dirais, le garant tout risque pour la tribu. Il a tout créé, il ne règne pas sur les hommes, il leur donne des moyens d'existence. Donc, le Dieu créateur, c'est celui qui répond à tous les besoins des hommes de tribu. C'est comme ça que c'est envisagé dans le Coran. Et ce n'est pas du tout l'approche biblique que vous trouvez, par exemple, que nous explique Thomas Romer dans le livre qu'on a fait ensemble, où le Dieu créateur dans la Bible, c'est le Dieu qui règne, c'est le roi. En Arabie, c'est le possesseur de tout, et donc qui pourvoit aux besoins de tous les hommes. Donc, Mohammed est chassé de sa tribu parce qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il leur raconte. Il arrive à Médine et là, il se trouve face aux Juifs et évidemment, les rabbins juifs lui rient au nez. Donc, il lui est persuadé que les histoires bibliques qu'il raconte, les histoires de prophètes incompris, s'appliquent également aux Juifs, mais c'est le grand malentendu. Donc, ça va donner un conflit. D'abord, un conflit dans les mots. Alors, le Coran devient extrêmement virulent vis-à-vis des Juifs. Mais le problème, c'est que les Juifs médinois sont dans une alliance avec les tribus arabes locales. Et dans le monde tribal, on ne peut pas s'attaquer à quelqu'un pour ses idées. C'est d'ailleurs le grand contresens que font les musulmans d'aujourd'hui quand ils tuent pour une offense au prophète, ce qu'ils appellent une offense au prophète. Dans le Coran, il y a des insultes contre Mohammed. En période mécoise, il est traité de châtré. Pourquoi est-il traité de cette façon ? Parce qu'il n'a pas de fils adulte à ses côtés. Mohammed a eu des fils, des filles, il a eu des fils qui sont morts en bas âge, et les seuls qui ont survécu, qui sont venus à l'âge adulte, c'était des filles. Donc, je dirais que c'est un handicap social, le fait de ne pas avoir de fils adulte à ses côtés. Donc, il a été traité de châtré. Le Coran réagit comment ? Dieu est le plus fort. Il ne réagit pas. Quand on est en pleine période médinoise, alors que soi-disant Mohammed est le grand maître de Médine, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, il y a une querelle avec un chef de clan. Et le chef de clan, c'est dans le Coran, là encore, c'est dans la sourate 63, dit la chose suivante. Quand nous serons revenus à Médine, l'homme puissant que je suis mettra dehors l'homme de rien que tu es. Non, on est en pleine période médinoise. Mohammed est censé être le maître de Médine. En réalité, dans la politique tribale, il est un homme qui a réussi plus ou moins à s'imposer parce qu'il a réussi en faisant quelques razzias, mais il doit tenir compte des chefs de clan. Il n'est pas du tout maître de Médine. Donc, si vous remettez ces textes dans leur contexte, vous vous apercevez que la vision de Mohammed, grand chef de guerre, grand ceci, grand cela, ne tient pas. Et face à ça, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le Coran répond ? Le Coran répond, Dieu est le plus fort. Autrement dit, il y a une chose, j'ai d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait un article récemment dans l'Observateur, dans le Nouvel Observateur là-dessus, à propos des caricatures. Si vous êtes insulté en parole, à l'époque, on ne dessinait pas. Il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas de papier, on ne dessinait pas. Mais on insultait. Et on insultait notamment à travers la poésie satirique. La poésie satirique, c'était un des arts majeurs de la société tribale. Et elle était d'une virulence sans égale. Il y avait insultes et tout ce qu'on voulait. En aucun cas, on ne peut répondre à ce qu'en arabe on appelle un aza, c'est-à-dire une force verbale, par une atteinte physique. Il y avait une règle absolue dans la société d'origine qui était qu'on répondait dans le même registre. Là, si on avait répondu par un meurtre à une caricature comme aujourd'hui, il y a quelque chose qui se serait appliqué de façon inéluctable, qui s'appelait la loi du talion. La loi du talion ne s'appliquait qu'aux dommages physiques, blessures ou morts. En aucun cas, une parole insultante, une moquerie, ou pour transposer dans ce qui se passe aujourd'hui, un dessin insultant, provoquant, ne pouvait avoir comme réponse une atteinte physique. Parce qu'à ce moment-là, c'est celui qui avait commis l'atteinte physique qui devenait le coupable. Donc, ces choses-là, malheureusement, sont complètement invisibles dans le monde musulman d'aujourd'hui, du fait d'un phénomène qui est celui de la sacralisation. Alors, comment se met en place la sacralisation ? Pour comprendre, alors, le Coran, c'est un texte qui démarre en Arabie, dans le milieu, dans ce milieu tribal dont je viens de parler, mais qui très vite, à la suite des conquêtes que je ne dirais pas musulmanes, mais tribales, à la mort de Mohammed, qu'est-ce qui se passe ? Contre toute attente, les deux villes qui venaient de se réconcilier, la Mecque qui avait chassé Mohammed et Médine où il s'était réfugié, s'étaient entendues quasiment sans combat, c'est un compromis, 2 ans avant la mort de Mohammed. Et au miracle, Mohammed meurt 2 ans après et les deux villes restent alliées. C'était de la politique, ce n'était pas de la religion. Elle reste alliée politiquement. Et à partir de là, sous la conduite de leur allié divin, parce que la manière de représenter le divin dans cette société, c'est l'alliance. Les tribus étaient alliées entre elles et le surnaturel s'inscrivait également dans le registre de l'alliance. Le Allah, c'était l'allié des tribus. La religiosité tribale, c'est une religiosité de l'alliance entre les hommes et avec le divin. Donc, considérant que leur allié divin était efficace, que vont faire les successeurs de Mohammed ? Et vous voyez déjà, je me piège moi-même en disant les successeurs de Mohammed, parce que ce n'était pas le chef de l'Oasis, c'était un homme important dans l'Oasis. Ce n'était pas le maître absolu de l'Oasis. Mais en tout cas, les chefs de clan vont rester unis et vont se lancer à l'assaut de l'Arabie centrale. Ce qui se passait dans les conflits entre tribus, quand une tribu prenait l'avantage, montrait qu'elle était plus forte, la tribu qui avait le dessous, tout de suite, se rangeait sous la férule du plus fort et faisait alliance. Donc, vous avez comme ça les deux villes qui sont alliées, les tribus à côté qui sont alliées. En Arabie centrale, ils sont victorieux. Les tribus d'Arabie centrale se rallient. Et qu'est-ce que font ces tribus qui ne jamais ne s'étaient trouvées avec une telle, dynamique ? Elles vont commencer à sortir des frontières de l'Arabie. C'est une expansion tribale. Et contre toute attente, cette expansion tribale va réussir. Pourquoi ? Parce que les Byzantins et les Perses venaient de se livrer une guerre sans merci. Les Perses étaient arrivés jusqu'en Égypte. Et là, les Byzantins commençaient tout juste à reprendre le dessus. L'Empire byzantin commençait à reprendre le dessus. Jérusalem venait tout juste d'être reconquise parce que Jérusalem était tombée entre les mains des Perses. Par contre, au moment de la mort de Mohammed, l'Empire perse est en pleine guerre civile. Donc, les tribus de l'Arabie orientale qui sont entrées dans l'alliance de Médine et de la Mecque, donc l'alliance, j'ose à peine dire musulmane, parce que le terme islam n'est pas utilisé non plus beaucoup à cette époque-là, vont se lancer à l'assaut des terres extérieures et contre toute attente, ça va réussir. Donc, que font des tribus quand ça va ? Ben, elles avancent jusqu'au moment où elles sont trop loin de leur base, jusqu'au moment où il y a un obstacle qui les arrête. Mais on n'a pas du tout ce qu'on pourrait appeler une conquête musulmane. On l'a d'autant moins que pendant 1,5 siècle quasiment, les populations extérieures à l'Arabie ne pourront pas devenir ce que nous appelons musulmanes sans entrer dans une tribu. C'est-à-dire que pour devenir musulman, il fallait qu'une tribu vous accepte. Donc, les tribus n'avaient aucun intérêt à voir des masses de gens entrer dans leur système social. Donc, jusqu'à la chute des Omeyyades, le premier empire qui va s'installer à Damas et qui va aller de l'Asie centrale à l'Espagne, jusqu'à la chute des Omeyyades. Les Omeyyades chutent en 750 pour d'obscures histoires de cousinage et de le meurtre d'un petit-fils de Mahomet qui était une erreur politique et pas une erreur religieuse, contrairement à ce que les chiites peuvent vous raconter. Alors, en passant, il n'y a pas de sunnisme, il n'y a pas de chiisme durant toute cette période. Hein. Le chiisme et le sunnisme, ça se fabrique après. Donc, les Omeyyades tombent pour des raisons politiques et tribales, et à partir de là, leurs successeurs, qui sont pourtant aussi des Mécois, puisque les Omeyyades, c'était des gens de la Mecque, eh bien, à partir de 750, ce sont des descendants d'un oncle paternel de Mohammed qui prennent le pouvoir, c'est ceux qu'on appelle les Abbassides, Haroun el-Rachid et compagnie. Hein. Ils sont suffisamment loin de leur milieu d'origine pour pouvoir changer de registre sociologique. Les Abbassides vont rompre avec le modèle tribal et à partir de 750, les populations extérieures vont pouvoir se convertir. Et je dirais que l'islam qu'on connaît aujourd'hui, avec sa sacralisation, avec ses mythes fondateurs, c'est largement les convertis qui vont le fabriquer. Ils vont d'autant plus le fabriquer qu'ils n'ont rien à voir avec le monde de l'origine. Et donc, ils vont fantasmer les débuts de l'islam. Parce que le problème de cette société abbasside, qui s'étendait de l'Asie centrale, donc de tout le domaine iranien, de tout le Proche-Orient, l'Égypte, l'Afrique du Nord, et alors l'Espagne leur avait échappé, puisque c'est un fuyard omeyyade qui réussit à prendre le pouvoir en Espagne. Et toute sa famille avait été massacrée, et lui, il réussit à filer en Espagne, où il va fonder l'émirat de Cordoue. Mais sur les mêmes bases. Hein. Bon. Donc, les Abbassides vont avoir à résoudre un problème de multiculturalisme, puisqu'ils ont des populations de langues diverses. Au Proche-Orient, c'était le grec. En Afrique du Nord, c'était soit les langues berbères, soit le latin. En Iran, c'était le persan. Et il va falloir combiner tout ça dans un empire en se donnant des modèles intégrateurs. Et on peut dire que la religion a servi de vecteur d'intégration à ces différentes populations. Alors, ce modèle intégrateur, c'est un modèle qui va, je dirais, inventer son passé et sacraliser son passé autour de la figure d'un prophète qui au départ n'avait rien à voir avec eux. Parce que Mohammed, dans le Coran, n'est absolument pas sacralisé. C'est un homme comme un autre, on vous dit, il va par les marchés, il dit « je ne suis pas un ange ». Donc, dans le monde tribal, on ne peut sacraliser personne. Et il faut qu'on ait changé de société pour qu'on puisse arriver à se représenter une sacralisation. Le sunnisme et le chiisme vont se construire à partir du 9e et du 10e siècle avec, je dirais que le sunnisme et le chiisme répondent aux besoins, non pas des hommes de tribu de l'origine, répondent aux besoins des convertis. Alors, pourquoi y a-t-il cette séparation entre les deux ? Le sunnisme répond aux besoins de littéralisme des populations urbaines basiques de l'Empire abbasside. Cette phase, alors le sunnisme, alors qu'est-ce que ça veut dire sunnisme ? Ça veut dire la voie à suivre. Donc, ils vont prétendre qu'ils suivent la voie du prophète. Et c'est à cette époque-là qu'en plus du Coran, je dirais qu'ils vont presque inventer leur Coran. Qu'est-ce que j'appelle leur Coran ? Eh bien, la fameuse tradition prophétique. Mohammed a dit, Mohammed a fait. Et ces recueils qui sont… Alors, le Coran, c'est tout petit, hein, c'est un petit bouquin. Les bouquins de hadith, c'est 10 volumes. Et j'ai écrit dans le dernier livre que j'ai commis avec Thomas Romer, je dirais que la parole développée du hadith de la tradition prophétique correspond à la démographie d'un empire. Le Coran correspondait à la démographie d'une tribu, c'est un tout petit livre, et la multiplicité des paroles attribuées au prophète, attribuées, je dis bien, au prophète, correspondent aux besoins de paroles des populations d'un empire, c'est-à-dire à une échelle démographique qui n'a plus rien à voir avec le milieu restreint en population de l'origine. Donc, du point de vue historique, la tradition prophétique, c'est une production du 9e et du 10e siècle. Ce n'est pas une production du 1er siècle. Avant ça, il y avait eu une étape intermédiaire de représentation du passé, qui est celle des Abbassides, donc ceux qui ont renversé le premier empire des gens de Damas en 750, donc les descendants de l'oncle de Mohammed. Ils sont arrivés au pouvoir en fait pour venger l'erreur politique qui avait été faite par leurs prédécesseurs, qui avait été de tuer l'un des petits-fils de Mohammed qui s'était révolté contre le pouvoir de son temps. Et donc là, il y avait une vengeance tribale. On a tué quelqu'un, donc vous devez, c'est la loi du talion, hein, en quelque sorte. Bon. Donc, ils arrivent au pouvoir. Et là, ils arrivent au pouvoir, en principe, les Abbassides, pour venger la mort du petit-fils de Mahomet. Seulement, à leur époque, ils avaient des cousins qui étaient descendants directs des petits-fils en question. Et quand les Abbassides arrivent au pouvoir en disant « Nous vengeons notre ascendant, celui de notre clan », puisque les Abbassides font partie du clan du prophète. Un clan, c'est la famille de la famille directe, mais aussi la famille collatérale. Les Abbassides sont les collatéraux de la famille du prophète. Donc c'est le clan qu'on appelle le clan de Hachem, les Hachémites, qui sont aujourd'hui en Jordanie, par exemple. Bon. Ils arrivent au pouvoir, et là, eh bien, à peine arrivés au pouvoir, leurs cousins, qui sont les descendants directs, leur disent « Mais les plus centraux dans notre clan, ce n'est pas vous, les descendants de l'oncle, c'est nous, les descendants de Mohammed. » Et là, que répondent les Abbassides? Et ça, on trouve ça chez un historiographe qui est Tabari de la fin du Xe siècle. Qu'est-ce qu'il leur répond? Depuis quand les descendants d'une femme peuvent prétendre au pouvoir politique? Non seulement Dieu nous a donné la victoire, mais en plus, nous ne sommes pas les descendants des Fatima. Nous sommes les descendants de l'oncle. Et donc, c'est à nous que revient le pouvoir. Et je dirais que le chiisme, historiquement, résulte de quoi? Résulte non pas de tout ce qu'on nous raconte sur Ali et toutes les différentes politiques qui ont suivi la mort de Mohammed, mais résulte de ce que j'appellerais une querelle de cousins. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont réussi, et puis ceux qui disent « Nous sommes légitimes parce que nous sommes les descendants par la ligne directe. » Et là, vous avez une rupture du clan entre ceux qui ont pris le pouvoir et qui ont réussi parce qu'ils étaient plus malins, et ceux qui sont les descendants directs, mais qui n'avaient pas réussi politiquement. Et à partir de là, ceux qui sont au pouvoir, les Abbassides, vont persécuter leurs cousins, et ça va donner le chiisme. Mais le chiisme aura besoin de se légitimer, c'est-à-dire qu'il va inventer toute une histoire en disant, eh bien, Mohammed, à sa mort, le pauvre, il a été trompé par ses plus proches compagnons qui ont trahi sa volonté. Et c'est son cousin Ali, le mari, son gendre, le père de ses petits-fils qui aurait dû avoir le pouvoir. Donc là, vous avez tout un cinéma qui est monté à partir du Xe siècle pour donner une légitimité à ceux qui avaient perdu le pouvoir. Bon. Et donc, alors, vous avez ça du côté des chiites, et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui à travers des péripéties multiples. Quant au sunnisme, au départ, les abbassides vont s'appuyer sur des convertis, je dirais des convertis de haut vol. Les abbassides, après 750 et jusqu'au début du 9e siècle, vont s'appuyer sur des intellectuels, vont s'appuyer sur des gens qui sont des convertis, hein, mais qui sont des intellectuels, des philosophes qui ont traduit, vous avez ce qu'on appelle la maison de la sagesse au début du 9e siècle, qui était la rencontre de tous les savoirs de l'époque, parce que ce qui est intéressant à constater aussi, c'est que cet empire abbasside conjoint le savoir indo-iranien et le savoir gréco-romain dans un seul ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui a donné un essor extraordinaire à la science, pas la science musulmane, la science tout court, c'est-à-dire les mathématiques, la médecine, l'astronomie, le fait de conjoindre dans un même espace, et on ne demandait pas aux savants de l'époque s'ils étaient musulmans ou pas. Les savants, ils étaient chrétiens, ils étaient syriaques, ils étaient juifs, on s'en fichait complètement. Il y avait des hommes avec de très hautes fonctions qui étaient de diverses religions dans les empires de cette époque. Et là, vous avez, du point de vue scientifique, vous avez eu un essor extraordinaire qui n'a rien à voir avec la religion. Hein, l'innovation à cette époque-là était dans cet ensemble abbasside du fait de cette interculturalité qui existe. Donc, au départ, les abbassides s'appuient sur, je dirais, des hommes de grande intelligence. Mais quand les conversions vont atteindre des populations les populations urbaines, on va avoir besoin d'une religiosité moins rationnelle, une religiosité beaucoup plus proche du littéralisme. Et c'est pour répondre à ce besoin collectif très vraisemblablement que la tradition prophétique va s'inventer. On va avoir besoin de se donner un modèle par rapport à un passé auquel on n'appartient pas du tout, mais on va se donner idéologiquement, on va se donner un lien avec ce passé. Et puis aussi, vous avez des modèles d'intégration qui sont assez amusants. Vous avez par exemple les chrétiens nestoriens. Alors, les chrétiens nestoriens, c'était les chrétiens de l'Est. C'était des schismatiques de Byzance après différents conciles, je ne sais plus lesquels, vous avez dû voir ça dans vos études religieuses. Les Nestoriens avaient été chassés de l'ouest de l'Empire byzantin et ils s'étaient réfugiés chez les Perses. Donc, quand les Abbassides arrivent au pouvoir et sont à Bagdad, qui est la capitale qu'ils vont construire, les chrétiens irakiens étaient Nestoriens. Et les Nestoriens, soit ils deviennent musulmans, soit ils restent Nestoriens. Mais ils ont besoin de se donner, je dirais, une honorabilité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Nestoriens? Ils vont inventer des histoires en disant, vous ne le saviez pas, mais le cousin de la femme du prophète était un prêtre Nestorien qui se trouvait à la Mecque. Ou vous ne le saviez pas. Mais quand Mohammed, jeune garçon, aller dans les grandes caravanes de son oncle, grandes caravanes qui n'ont jamais existé, et bien dans le sud de la Syrie. Il a rencontré un prêtre nestorien, un moine nestorien, qu'il a reconnu comme futur prophète. Donc, vous avez des histoires comme ça, qui s'inventent. Ce sont des procédés de légitimation. C'est une manière de dire, voyez, nous les nestoriens, on savait avant vous, pauvres arabes, que Mohammed allait être un futur prophète. Donc, vous avez des tas d'histoires comme ça qui vont se raconter, qui sont en fait des moyens de s'intégrer, de se donner un lien avec une société avec laquelle, en fait, historiquement, on n'avait rien à voir. Les Iraniens vont faire pareil. Parce que les Iraniens, ça, vous trouvez ça chez le grand historiographe de la fin du 9e siècle, Tabari, qui a écrit l'histoire des prophètes et des rois, dans la tradition iranienne, comme dans la tradition biblique, il y a un premier homme. Dans la tradition biblique, c'est Adam, et dans la tradition iranienne, c'est Gaïomars, terme, ça veut dire terre mortelle. Alors, Tabari est bien embêté parce que là, il se trouve avec deux premiers hommes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben, Gaïomars, c'est un autre nom d'Adam parce que les Persans, ils ne parlaient pas les langues de l'Ouest. Ou alors, il va dire, Gaïomars, c'est un descendant d'Adam. Donc, il va réussir à trouver un biais pour se raccrocher à l'origine, mais une origine complètement fantasmée. Donc, ces fantasmes, il ne faut pas dire c'est faux, c'est pas bien. Ce qui est intéressant, c'est de les remettre dans leur contexte de production. Quand on a un mythe, c'est parce qu'on a eu besoin de le créer. Donc, il faut retrouver le contexte d'émergence des mythes pour comprendre quelque chose. Et je dirais que les musulmans d'aujourd'hui, ils sont dans une culture mythique dont ils n'ont pas décodé le premier élément. C'est ce que j'essaye, moi, de faire dans mes petites vidéos, mais ça donne des réactions absolument hilarantes, mais qui vraiment mériteraient d'être étudiées en tant que telles, pour voir où en sont les gens, parce que déjà, nous, il faut qu'on comprenne, mais ensuite, il faut qu'on fasse comprendre ce genre de choses. Et qu'on fasse comprendre en disant que ça n'attaque pas la foi, et c'est ça qui est extrêmement difficile. Parce que Adam, c'est vraiment le premier homme qui a réellement existé pour la plupart des musulmans. Noé, c'est quelqu'un, c'est un être, c'est pas du tout une figure mythique. C'est-à-dire l'idée même de dire de quelqu'un, il appartient au mythe, ça n'entre pas dans la représentation actuelle de la plupart dans les pays musulmans. Alors, dans les pays musulmans, c'est souvent difficile. Ce serait difficile de lancer cet enseignement, mais je pense qu'au moins ici, on pourrait essayer. Et non seulement on pourrait essayer, mais on devrait essayer.
Jacqueline, comme on arrive au bout du temps, peut-être un mot sur une minute en tout cas, ou deux, sur le choc de la rencontre avec les Mongols, les invasions mongoles. Qu'est-ce que ça produit en islam et en terre d'islam et sur
les, aujourd'hui, dans l'idéologie actuelle, la grande insulte, c'est les croisés. Ah, les croisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes des croisés, etc. etc. En fait, bon, les croisades ont eu un impact historiquement extrêmement limité, puisque c'est resté limité à la côte méditerranéenne et un petit peu à l'Égypte. Bon, ça a duré 2 siècles, ils se sont fait renvoyer dans leur foyer, puisque à partir de Saint-Jean d'Acre au XIIIe siècle, par les Mamelouks. Mais ça n'a pas beaucoup ému les gens de l'époque. Ceux qui étaient embêtés, c'était les gens de la côte. Et par exemple, les Irakiens, ils disent « cassez pas les pieds avec vos croisés bon, ». Il fallait aller faire des campagnes en disant « les croisés, voilà, on est embêtés par les croisés, venez nous aider », mais les gens d'Irak, ils n'en avaient rien à faire. Bon. Par contre, la grande catastrophe dans le monde musulman, c'est l'invasion mongole. L'invasion mongole a dévasté littéralement, parce que contrairement à l'expansion tribale musulmane du 7e siècle qui n'a pas été massacreuse. Alors pourquoi est-ce que l'expansion musulmane du 7e siècle n'a pas été massacreuse? Parce que, c'est pas parce qu'ils étaient gentils, c'est parce que sociologiquement, les tribus ne massacraient pas et ils voyaient pas l'intérêt de massacrer. Ce qu'ils voulaient, c'est prélever un tribut et que tout le monde se tienne tranquille. Et puis c'est tout. On se fichait éperdument de ce à quoi croyaient les gens.
Il n'y avait pas de résistance.
Il n'y avait pas de pression idéologique. Les Mongols non plus, mais les Mongols, c'est des tribus de grand nombre, puisqu'ils avaient embarqué en partant de Mongolie tous les Turcs de passage, donc c'était des troupes extrêmement importantes, puisque les Turcs et les Mongols, ils parlent à peu près la même langue, hein, le Turc et le Mongol, c'est des langues cousines. Donc c'est les Turco-Mongols, en fait, qui se sont déversés sur le monde musulman. Ça a été une véritable... Alors, il y avait déjà eu des Turcs dans le monde musulman, mais ceux-là, c'était d'anciens esclaves ou des convertis, enfin, ça s'était bien passé. Mais l'invasion mongole a été massacreuse d'une façon terrible. Alors ça a mis fin à l'Empire abbasside. Enfin, le calife déjà, il n'avait plus beaucoup de pouvoir, il n'avait plus de pouvoir du tout même. Il y avait des chefs militaires qui avaient le pouvoir. Mais ça a détruit de fond en comble l'Iran. Par contre, ça a eu une conséquence inattendue, c'est qu'il y a une partie des Iraniens qui sont partis en Inde. Et l'islamisation de l'Inde date en partie, elle avait commencé un petit peu au XIe siècle au nord du Pendjab, mais elle a été poussée, les sultanats de Delhi, etc., datent d'après la période mongole. Et puis finalement, bon, ça a été pendant un siècle, ça a été des ravages complets. Les Mamelouks sont restés sur leurs terres. Ils ont été arrêtés par je ne sais plus qui a arrêté les Mongols. Je ne me rappelle plus. Là, j'ai un trou. C'est Saladin, non? Non, qui c'est qui a arrêté les Mongols? Non, c'est après. Ah, j'ai un trou, là. Je suis désolée. Bon, ils ont été arrêtés en Palestine, à Ain Jalut, à la source de Goliath. Je ne sais plus par qui. Ensuite ils ont reflué et puis ils ont fini par se convertir, les Mongols. Alors ce que mon professeur de turc me disait, nous disait à l'époque, parce que j'ai fait aussi du turc et du persan, il nous disait il y a quelque chose qui a conduit peut-être, qui a contribué au massacre perpétré par les Mongols, c'est que pour les Mongols l'eau est sacrée et ce sont des populations qui ne se lavent pas. Vous savez peut-être que chez les Tibétains, on ne se lave pas, et chez les Mongols non plus. Hein, enfin, à l'époque, maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être des douches, j'en sais rien. Mais à l'époque, le fait de se laver souillait quelque chose de sacré qui était l'eau. Et donc, le fait de voir les ablutions d'un musulman, c'est Bazin, Hervé Bazin qui nous racontait ça, et ça a peut-être contribué. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Mais c'est une petite anecdote comme ça en plus, c'est-à-dire les croyances des Mongols, c'était le ciel, la terre et l'eau, et il ne fallait surtout pas souiller l'eau en se lavant dedans.
Merci. Merci.
Comment ? On va ?
On va à Bibos.
Ah.
Non,
oui. C'est un mamelouk. C'est Baybars, non?
Baybars.
C'est Baybars, oui, c'est ça. Je ne savais plus si c'était les Ayyoubides ou les Baybars. Oui.